monde au féminin. Féminin. Le monde au féminin. 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 Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'incontournable émission interactive de VOA Afrique, le monde au féminin. Les conséquences des conflits sur les enfants et l'implication des enfants dans les processus de réconciliation, hein, c'est le thème que nous avons comme invité en studio Vianney Bissimwa. Vianney Bissimwa qui est militant des droits des enfants et de la jeunesse en RDC, responsable de recherche du bureau de Goma de Search for Common Ground. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci aussi d'être invité, ça fait plaisir.
Alors j'en profite pour dire qu'on est en direct sur Facebook, hein, essentiellement le mardi. Alors vous êtes en charge de la formation du personnel et des partenaires sur la transformation des conflits. J'aime bien le terme transformation et c'est un terme clé, on va le voir je pense, hein, et la consolidation de la paix au Nord Kivu en Ituri, dans les Hauts et Bas-Ouélé. Vous travaillez sans relâche, inlassablement je dirais même, dans la lutte contre la violence. Vous avez travaillé également en Centrafrique pendant la guerre civile en tant que responsable de projet de protection sociale pour le Conseil danois pour les réfugiés. Et votre expérience professionnelle et personnelle est consacrée à la fin de la violence et à l'autonomisation des jeunes femmes et hommes en vue de les transformer en pacificateurs et agents de changement en RDC et en Afrique. Un grand merci encore d'être ici. Hein. Vous venez de Goma, hein, c'est assez loin.
C'est assez loin, plus de 16 heures de vol, 3 heures de route, donc oui, voilà. 19 heures de voyage carrément.
Voilà, donc la transformation, Vianney, la transformation... Est-ce que c'est quelque chose qui se produit dès le plus jeune âge, justement? Et sinon, est-ce que c'est par là qu'il faut passer? Parce que vous avez affaire à un public jeune. Et peut-être, je ne sais pas, votre expérience à vous-même quand vous étiez jeune, vous étiez comment?
Oh, j'étais beaucoup de choses. Hein. Je suis né dans une famille assez élargie. Mon père était polygame, donc... Assez jeune, j'ai été exposé à la joie de vivre en famille, mais en même temps aussi à toutes les tensions possibles qui peuvent naître dans une famille polygame. Et c'est pas évident dans l'environnement dans lequel on vivait à l'époque. Lorsqu'on est enfant, ce qu'on vit en famille, ce qu'on vit dans l'environnement autour de nous, nous transforme et commence déjà à planter en nous des graines qui vont définir finalement ce que nous allons devenir plus tard en étant adulte. Donc, mis à part cela, il y a eu aussi une très forte éducation, un engagement au travail bien fait, mais aussi à travailler dur pour réussir dans la vie. Pour la justice que j'ai reçue de ma mère, se battre tous les jours, n'est pas baisser les bras. Donc tout ça, ce sont des choses que j'ai apprises. Et aujourd'hui, je me retrouve en train peut-être de les diffuser ou de le vivre. Mais c'est dès mon enfance que les bonnes comme les mauvaises choses que je vis aujourd'hui, les ai acquises.
Est-ce que vous avez été transformé vous aussi?
Oui, bien sûr, bien sûr. Ce qui me connaissent aujourd'hui et qui m'ont connu en 2005, en 2003, ils connaissent que j'étais un leader des étudiants assez bouillant, très engagé à revendiquer nos droits et parfois à aller très loin jusqu'à stopper des choses et parfois de manière assez forte, pour ne pas dire assez violente, pour revendiquer nos propres droits. Parce que j'ai aussi remarqué que dans le contexte de la RDC, à l'époque et aujourd'hui encore malheureusement, quand tu n'es pas violent, on ne t'écoute pas. Ouais. Alors, ceux qui me connaissent aujourd'hui, je pense qu'ils sont surpris de ce que je suis devenu. Je pense qu'il y a eu un processus de transformation personnelle où on peut avoir des différends et des conflits, mais je ne recourirai jamais à la violence.
Mais donc l'objectif, c'est de faire la même chose avec les jeunes là-bas, les jeunes de la RDC, de Goma, etc.
Ouais. Exactement. C'est pour moi ce qu'il y a des alternatives à la violence. La violence est un choix, mais il y a des alternatives à la violence. Ouais. Et la violence apparaît comme étant un raccourci, mais il y a d'autres solutions possibles qui nous humanisent et qui nous permettent de garder notre dignité, la dignité de la personne en face.
Est-ce que les enfants dans l'Est de la RDC sont profondément marqués par tous ces conflits qui durent encore?
Oui. Les enfants sont... Je pense que c'est une des plus grandes peines qu'on a quand on voit les enfants. Vous savez, aujourd'hui, simplement, celui qui est né, je sais pas moi, il y a depuis 1994, il n'avait que la guerre. Celui qui est né très récemment et qui a 10 ans aujourd'hui ou 8 ans, que ce soit à Goma, à Rutshuru, à Kinshasa, au centre du pays et partout ailleurs, il n'a connu que ça. Que la guerre, que les pleurs, que les plaintes, que des informations qui parlent de destruction dans son pays, les viols et toutes ces questions. Oui, oui, les enfants sont... Et moi, j'ai envie de dire les toutes premières victimes de cette violence, parce que non seulement qu'on détruit leur présent, mais on détruit aussi leur avenir, toute la manière avec laquelle ils vont,
et puis
ils
c'est,
vont
et
aborder
puis un,
la vie.
Un conflit armé, c'est extrêmement violent pour des enfants. C'est, déjà pour des adultes, forcément, mais pour des enfants...
C'est horrible, c'est l'enfer. Moi, je pense que les enfants, lorsqu'ils sont dans le ventre de leur...
Comment ils se protègent, alors, psychologiquement parlant?
Je pense que les enfants se réfugient dans beaucoup de choses. Certains enfants vont se réfugier parfois dans s'ils sont encore beaucoup plus jeunes dans les bras de leur mère. Ils vont se recroqueviller, ils vont être des enfants qui ne s'expriment pas, ils vont s'enfermer dans leur propre monde à eux pour ne pas s'exposer au monde extérieur. D'autres encore vont être assez turbulents, assez expressifs. Enfin de vouloir dans une certaine mesure répondre à ce qu'ils reçoivent comme violence. D'autres encore vont être carrément insouciants du besoin des autres parce qu'autour d'eux il n'y a personne qui se soucie d'eux pour vouloir attirer l'attention. Donc ils vont avoir des comportements qui plus tard vont être décrits comme étant antisociaux, mais qui sont nés de ce fait de la violence.
Absolument.
Dans la presse.
Petite revue de presse, levée de certaines restrictions imposées aux femmes en Arabie Saoudite. Les Saoudiennes n'ont plus besoin de l'accord d'un tuteur pour les démarches administratives en vertu d'un décret royal. L'Arabie Saoudite impose de nombreuses restrictions, comme nous le savons, aux femmes. C'est le seul pays du monde à interdire aux femmes de conduire et celles-ci ont besoin de l'accord d'un tuteur pour étudier ou voyager à l'étranger. Alors un décret du roi Salman stipule que les femmes n'ont donc plus besoin du consentement d'un tuteur pour leur démarche auprès des services publics, à moins qu'il y ait une justification légale pour cette demande en vertu de la loi islamique. Donc le « à moins que » est intéressant, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc même si le gouvernement ne réclame plus la permission d'un tuteur pour laisser les femmes travailler, Human Rights Watch a indiqué que de nombreux employeurs dans le privé demandaient toujours ce type de consentement. Voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain, comme on le sait. Autre nouvelle, les autorités de Brazzaville, capitale du Congo, effectue une opération de lutte contre les bandes de jeunes délinquants particulièrement violents surnommés les bébés noirs. Les bébés noirs sont des terroristes, ils tuent, ils pillent, ils violent les femmes, a dit le procureur de la République, André Ngakalaoko, ajoutant qu'ils seraient combattus par tous les moyens. Et je vois Vianney qui fume à côté de moi, effectivement. Alors le nombre de ces jeunes adolescents sont drogués et opèrent avec des armes blanches de jour comme de nuit à Brazzaville. Vianney, je vous ai bien compris, je vous ai vu gesticuler. Le terme, les bébés noirs, ça rappelle un petit peu les microbes en Côte d'Ivoire. Le terme des microbes, déjà le terme bébé noir. Alors c'est le procureur employé des termes vraiment très très forts. La population elle-même est très remontée contre ces jeunes et finalement personne se pose la question de savoir comment ils en sont arrivés là. La question essentielle, finalement, et puis je crois que ça rejoint ce que vous venez de dire. Cette violence, elle vient bien de quelque part. On rappelle que ce sont des jeunes. Comment en sont-ils arrivés ici? Et qu'est-ce qu'on va faire pour eux?
Exactement.
Pour les sortir de là.
Il y a un grand penseur, j'oublie le nom, qui a dit que si tu veux connaître une société, regarde comment est-ce qu'elle traite les enfants. Parce que finalement, ils sont faibles, parce que finalement, ils sont vulnérables, parce que finalement, ils dépendent de nous. Donc la seule façon de voir notre humanité, notre dignité, c'est de regarder comment est-ce que nous traitons les plus faibles que nous. Les enfants, donc. Et il est assez difficile dans une société, et c'est un discours politiquement incorrect, que de pouvoir s'élever en tant que procureur et de pouvoir dire à la société, nous sommes responsables de cette situation. Les politiciens, beaucoup, ne jouent pas le jeu de nous sommes responsables. Mmh. Parce que c'est un discours impopulaire.
On l'entend pas souvent. Ouais.
Mais c'est le discours le plus responsable qu'on devait avoir devant une société. Nous sommes responsables de ce que ces enfants sont devenus. En partie, certains plus que d'autres, parce qu'il y en a qui ont pris la responsabilité de diriger la société. Mais tous, d'une certaine façon, nous sommes responsables. Le tout premier passant qui est passé, ou l'enseignant à l'école qui a essayé d'être violent, ou le parent à la maison qui a chassé l'enfant, ou l'oncle qui l'a entraîné, je ne sais pas, qui l'a manipulé. Toutes ces choses nous rendent responsables, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, de ce que ces enfants...
On est responsables de nos enfants.
Nous le sommes. Ouais. Nous le sommes. Et quand on parle de nos enfants, on ne parle pas seulement de ceux que nous avons dans nos toits. Nous parlons...
Tous les enfants.
Oui, des enfants qui vivent dans la ville où nous sommes. Mm-hmm. Et une société doit se regarder et dire comment en sommes-nous arrivés là. Mm-hmm. Et pas dire on va tous les réprimer, on va les massacrer, on va les tuer. Et c'est plus facile aussi de voir comment dans nos sociétés, nous pensons que plus de violence réduira la violence. Mais non, ces enfants-là vont développer d'autres mécanismes. Moi, je l'ai vu à Kinshasa. Ils ont pris tous les enfants de la rue. Ils les ont chassés. On en a tué certains. On les a ramenés. Et pendant un mois, ils ont dit tout va bien. Et tout le monde a acclamé. Opération soi-disant Likofi, qui signifie gifle. Mais il faut voir quelques temps plus tard.
Il faut voir quel genre de gifle aussi.
Exactement. Ils sont rentrés. Et si on ne trouve pas des réponses aux causes profondes, qui sont des questions d'éducation.
La question économique aussi.
Exactement, qui sont des questions d'éducation, des questions d'économie. Quand on parle de l'économie, on réalise comment est-ce que les familles aujourd'hui sont en véritable déliquescence. Ça veut dire, vous savez, la chose la plus dure aussi, c'est de faire en sorte qu'un parent revienne chez lui à la maison dans nos sociétés et qu'il soit incapable de répondre aux besoins élémentaires de ses enfants.
C'est dur.
Pas parce qu'il est incapable, mais simplement parce que il y a la guerre et parce qu'il n'y a pas d'opportunité autour de lui. Et même lorsqu'il y en a, il y a de la tracasserie, il y a une forme de violence sociale, psychologique, structurelle, qui va pousser finalement un tel parent à être si faible et parfois à laisser l'enfant développer ses propres mécanismes de solution face à ces genres de situations. Donc oui, c'est dur.
Parole de femme.
Plus de 4470 cas de grossesse en milieu scolaire ont été enregistrés depuis la rentrée dans le secondaire en Côte d'Ivoire, selon le ministère de l'Éducation. Notre correspondante Narita Namasté a rencontré des élèves victimes dans la capitale économique ivoirienne.
C'est mon enfant.
Yasmine a 16 ans et elle est en classe de 4e. Elle vient d'être mère d'un bébé de 2 semaines. Issue d'une famille en situation financière difficile, dans un quartier précaire de Yopougon-Lokojo, Yasmine a été abandonnée par son père génétique, aussi par l'auteur de sa grossesse.
La même classe, c'est mon 4e. On est sortis ensemble. Moi, mais je ne savais pas qu'il était enceinte. C'est après, j'ai su qu'il était enceinte. Moi, mais j'avais peur de rentrer à la maison. Je me suis cachée, je suis partie chez ma camarade. C'est pour ça, il ne va plus à l'école, mais il y a honte de partir à l'école. Donc, j'ai arrêté de partir à l'école. Les parents du jeune homme disent qu'il n'a pas d'argent, qu'il ne peut pas s'occuper de la grossesse.
Comme Yasmine, elles sont nombreuses, ces jeunes filles, qui sont obligées d'abandonner leurs études pour des raisons de grossesse en plein milieu scolaire. Zobo Christelle vient d'être mère à 15 ans et elle est en classe de 4e.
Malgré les regards de mes amis et leur manière de parler, j'ai continué d'aller à l'école. Quand j'ai eu accouché, je ne suis plus partie à l'école jusqu'en prison. Mais je compte retenir.
Le gouvernement ivoirien avait lancé une campagne zéro grossesse en milieu scolaire. Une politique qui ne se porte pas au mieux de ses intentions. Des ONG décident de prendre les choses en main pour éradiquer ce fléau dans ce pays qui vise l'émergence d'ici 2020 en comptant sur sa jeunesse. Diama Luzette nous fait l'état des lieux.
Pendant l'année scolaire 2012-2013, eu 5076 cas de grossesse déclarés. Pour l'année 2015-2016, nous avons eu 3690. Cependant, de septembre à février 2016-2017, nous avons eu 4471 cas de grossesse déclarés. Nous constatons que le taux qui était en baisse est légèrement en train de remonter. Nous allons visiter des écoles. Pendant ces ateliers, nous allons éduquer ces jeunes élèves sur les risques liés aux grossesses en milieu scolaire pour qu'ils prennent en compte leur avenir et leur santé.
Parler de sexe avec ses enfants reste encore un sujet tabou ici en Côte d'Ivoire. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
Vianney Bissimois, merci beaucoup d'être avec nous pour Le Monde au Féminin. Vous avez parlé de la responsabilité de la société quant à la violence des jeunes, la violence contre les jeunes. Comment faire ces jeunes pour les ramener, on va dire, à la raison, hein, sachant qu'ils ne vivent pas forcément dans un monde où les adultes ont toutes leurs raisons. On est bien d'accord, mais...
C'est bien dit.
Mais bon, ils n'ont pas le choix, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est l'avenir. Hein, comment vous faites pour les impliquer dans ces questions de réconciliation? Parce qu'en fait... Ils sont pas vraiment en colère les uns contre les autres, les jeunes. C'est plutôt les adultes, non? Donc, quand on parle de réconciliation, c'est plutôt réconcilier les adultes entre eux, non?
En partie, c'est parfois aussi réconcilier des jeunes avec des adultes qui leur ont fait du mal. Mais parfois aussi, c'est entre eux, parce que les discours assez des divisions affectent aussi les jeunes qui arrêtent de se regarder simplement avec leur regard d'enfant.
Ces divisions se répercutent dans le milieu de la jeunesse également.
Ils vont se regarder sur base des stéréotypes et des préjugés. La première chose qu'il faut faire, c'est de créer des espaces. Et qu'on essaie de faire, c'est de créer des espaces où ces jeunes gens peuvent s'exprimer librement, sans être jugés, où ils peuvent parler. Et où ils peuvent être écoutés. On a besoin dans les familles, dans les communautés, on encourage beaucoup des parents, d'éducateurs et des responsables, de grands frères, grandes sœurs, à pouvoir créer un espace où les enfants vont parler et ils vont être écoutés sans être jugés. Ils peuvent exprimer leur opinion sans être jugés. Ça leur permet de créer leur propre estime de soi. Ouais. Ça leur permet d'être fiers de ce qu'ils disent. Ça leur permet de faire des erreurs.
C'est essentiel, ça, en plus. C'est essentiel.
C'est important.
C'est la base.
Exactement. Ouais. Et c'est la première chose qu'il faut faire. Et il n'y a rien de merveilleux qu'une famille ou qu'un cadre où un enfant peut s'exprimer et faire une faute et sans que les adultes ne se moquent ou ne le réprimandent et qu'ils lui disent... Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de respect. On n'a même peut-être pas besoin de l'aimer à l'extrême, avec beaucoup de respect. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est assez importante, c'est de pouvoir aussi engager les enfants dans des activités communautaires. Mais dès qu'ils sont encore très petits, ça peut être de participer à la construction d'une toute petite avenue. Quand les adultes les font, laissez aussi l'enfant prendre un petit bout de pierre et ajouter. Ça lui donne le sentiment qu'il a participé à quelque chose d'important.
Mais en plus, quand on est tout petit, c'est ce qu'on demande aussi.
C'est formidable.
Quand on fait comme les adultes, on est vraiment extrêmement heureux, quoi.
Exactement. Ouais. Et je pense que ça ne prend rien, ça ne coûte rien.
Ça change pas.
À un parent,
on veut toujours faire comme les grands, à tout âge.
Exactement. Ouais. Et on veut
être estimé.
Il y a un poète qui a dit que les parents sont comme qu'il y a des petits yeux qui nous regardent. C'est pour ça qu'on doit être aussi assez sensible en disant nous sommes des modèles pour ces jeunes gens et nous devons prêcher par l'exemple. Et ça, c'est très important pour les adultes. Et la plupart des gens en RDC et partout ailleurs où j'ai été, ils disent aux gens ceci est bon, faites-le, mais ne suivez pas ce que moi je suis en train de faire.
Ouais.
Mais les enfants, ils sont fous de tout ce qu'on raconte. On dit même que quand les enfants ils sont petits, ils ne savent pas la différence entre l'affirmation et la négation. Quand tu dis à un enfant ne mange pas, il attend le mot manger.
C'est mieux de donner le bon exact, exemple.
Exact. Toi, tu ne manges pas non plus.
C'est toujours un peu mieux. Hein.
Exact. Lui, il est lié à ce qu'il voit.
Bah, surtout les questions graves. Surtout les questions graves. Oui, absolument.
Ce qu'il accomplit.
Si jeunesse pouvait.
Vianney Bissimois, je pense que vous connaissez les enfants utilisés comme main d'œuvre facile dans l'exploitation artisanale de l'or, notamment à Kamituga, dans le sud, Kivu en RDC. Voici un reportage de Ernest Mouerou.
Ils sont de centaines les enfants privés de leur enfance et qui travaillent dur dans les sites miniers du Sud Kivu, aux côtés des creuseurs artisanaux, les présidents de la nouvelle dynamique de la société civile en territoire de Mwenga, Mwati Mwendambali Benoît.
L'exploitation artisanale occupe presque 99% de la population ici, 70% d'enfants ici ne fréquentent pas l'école. Donc nous ne pouvons pas encourager cela, raison pour laquelle et les femmes et les enfants ne doivent pas fréquenter ces sites.
D'innombrables tunnels tels des labyrinthes frappent le regard. Avec un enchevêtrement des tuyaux qui facilite la respiration dans les sous-sols. Le site est coiffé de petites constructions sommaires en bâches couleur bleue où certains creuseurs reprennent des forces ou se nourrissent. Parmi eux, des enfants et adolescents qui transportent à longueur des journées des sacs lourds contenant du sable trié. David a 16 ans, il a abandonné les études en 4e année primaire.
Je suis ici pour chercher de l'or. Pour en trouver, ce n'est pas facile. Les études, ça on a abandonné.
année. D'ailleurs, nous sommes nombreux, les enfants qui bossent ici. Nous arrivons dans les carrés minés à 6 heures du matin pour sortir à 18 heures et des fois nous passons la nuit dans les tunnels pour repartir le lendemain matin. Le seul problème, c'est de tomber des fois malade. Or, moi j'ai 7 petits frères que je dois nourrir. Quand j'ai 10 000 francs le jour, je leur donne 5 000 francs.
5 000 francs congolais équivaut à moins de 4 dollars américains. Eric Ombeni a travaillé jadis dans les mines pendant son adolescence. Il en garde un souvenir amer.
Le travail dans le mine, c'est très dangereux. J'ai eu à y travailler pendant 5 ans pour payer les frais scolaires. Imaginez-vous, vous êtes sous le sol. Parfois, il y a des éboulements. Parfois, il y a des manques d'oxygène. Les gens meurent par asphyxie. Donc, c'est un travail très lourd qui fait souffrir. Et après, j'ai raté le diplôme à cause de ces activités-là.
Le coordonnateur de l'ONG locale Justice pour tous, Eric Kitungano, déplore cette forme d'exploitation des enfants qui les détruit à petit feu.
Nous avons comme conséquence cette question de moralité. Sur le plan épanouissement, il y a des problèmes. Vous savez, dans les mines, on utilise beaucoup d'outils, on utilise des méthodes. Il y a ceux qui utilisent le mercure qui peuvent nuire à la croissance.
D'aucuns estiment qu'il faut un travail de synergie entre la police de protection de l'enfance, les services sociaux et les organisations de défense des droits de l'enfant pour arrêter l'hémorragie en proposant des alternatives porteuses. De Kamitoug en province du Sud Kivu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Mais oui, et c'est la jeunesse ouverte.
Vianney Bissimois, vous avez entendu hein, ce reportage. Moi, je retiens le témoignage de ce jeune qui n'a pas pu faire ses études à cause de cela, parce que c'était trop dur forcément, et qui en fait a dû faire cela pour faire ses études. Mais c'est d'une extrême violence finalement. Ces jeunes sont exposés à une violence assez particulière quand même.
Oui, je suis sans voix, c'est horrible, c'est inacceptable. Aucun enfant du monde ne devait être soumis à ces genres de pratiques, surtout qu'il est possible pour les adultes de leur éviter ça.
De le faire à leur place, à la limite.
Exactement, à la limite, on peut laisser un adulte le choix de décider s'il veut le faire ou pas, et laisser à un enfant l'inciter, l'encourager à pouvoir faire les études. Toutes les violations et les problèmes qu'il y a aujourd'hui face aux enfants ne sont pas insurmontables. C'est des questions de choix, c'est des questions d'humanité, c'est des questions de créer, de mettre en place pour les dirigeants des structures qui vont aller suivre, qui vont aller encadrer les enfants, mais même pour les communautés, de développer des mécanismes qui font en sorte que les enfants ne sont pas impliqués. Et ça pourrait être de vérifier l'âge des gens.
Et il y a les loisirs aussi, parce que quand même, bon, une communauté, elle peut offrir des loisirs à l'enfance. Quand on n'a pas une vie facile comme ça, non? Des loisirs, un petit peu, c'est pas mal.
Exactement.
La culture.
Et nous, on essaie d'utiliser les loisirs pour transmettre des messages de cohésion, pour amener les enfants qui sont des groupes différents à pouvoir se connaître. Mm-hmm. Parce que des activités comme le football, des activités comme de chant, de danse, permettent à l'enfant de pouvoir transmettre des choses qui sont profondes, mais aussi de pouvoir découvrir l'autre qui les transmet et finalement de créer des liens avec l'autre que nous, les adultes, on a parfois du mal à pouvoir créer. Mm-hmm. Et les loisirs peuvent être utilisés et devraient être utilisés dans ce but-là, de permettre à l'enfant de découvrir ce qu'il est lui-même, ses talents, ses qualités, mais en même temps de découvrir l'autre. Parce que la plupart des loisirs ne se font pas seuls. On les fait en groupe, on les fait en plein air, on les fait à l'espace. Donc on se découvre, on découvre la nature, on découvre l'autre. Et finalement, on bâtit, au travers des enfants, une autre société pour l'avenir.
Bertrand Bissimois, un grand merci vraiment pour toutes ces belles, pardon,
Vianney.
Excusez-moi, Vianney Bissimois, c'est quelqu'un d'autre, hein, n'est-ce pas?
Lui, il est très connu pour autre chose, donc.
Voilà, Vianney Bissimois, un grand merci donc pour avoir donc participé à l'émission Le Monde au Féminin. Je remercie également Josèle Morissin et Souleymane Tarawale à la production ainsi que Fred Kayemite. Un grand merci à tous nos auditeurs et à très bientôt. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Arrête.